Avant de mourir, le Seigneur Jésus est arrivé à Jérusalem. On a vu qu'il a fait un long ministère. On pense que ça a duré à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, son ministère. Et il annonçait régulièrement à ses disciples que ça allait se terminer à Jérusalem, qu'il serait lié, saisi, livré même aux mains des païens pour être mis à mort. Et il est arrivé à Jérusalem. On l'a vu la semaine passée qu'il a fait son entrée sous les acclamations joyeuses de la foule, qui le reçoit comme roi. Donc, un temps de réjouissance, mais en même temps, un temps de tristesse, profonde tristesse dans le cœur de notre Seigneur Jésus. Parce qu'en voyant la ville, il s'est repassé à la mémoire ce qu'il a vu dans tous les siècles précédents, que très souvent, les prophètes qui ont été envoyés à Jérusalem et finalement à tout Israël n'ont pas été reçus. Donc, c'est Dieu qui s'adressait à Jérusalem comme à son épouse. Et malheureusement, très souvent, Israël n'a pas écouté le Seigneur, n'a pas écouté l'Éternel et a rejeté systématiquement tous les prophètes qui lui étaient envoyés, jusqu'à finalement rejeter le prophète attendu, le prophète comme Moïse, le Seigneur Jésus. Et Jésus sait qu'en entrant dans la ville, il va recevoir l'opposition. Finalement, il va être rejeté, traité comme un vulgaire coupable, un criminel, livré à la main des Romains pour être crucifié. Il sait tout cela. Et ce n'est pas son propre sort qui l'attriste, c'est de voir la rébellion dans le cœur des Israélites qui le reçoivent et qui finalement s'attirent le jugement de Dieu. Et ça ne l'empêche pas, par contre, de rester concentré dans sa mission, d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'à la fin. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour cela qu'il est venu sur terre, annoncer cette bonne nouvelle. Et il est lui-même la bonne nouvelle, finalement. C'est que Dieu, voyant le sort de l'humanité, a été touché et a aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique mourir à notre place pour que quiconque croit en lui ne périsse pas comme il aurait dû périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus annonçait, que quiconque croyait en lui, se repentait de ses péchés pour le suivre, pouvait entrer dans le royaume de Dieu, un royaume éternel, un royaume de justice. Et on arrive ce matin à 3 courts événements qui ont tous trait à l'autorité de Dieu. Donc, c'est le thème qui relie ces passages. Nous allons les lire un par un. Et il se rend directement au temple, d'ailleurs. C'est là où se passent ces 3 événements. Il se rend au temple qui est le lieu par excellence de l'autorité exercée à Jérusalem et dans tout Israël à cette époque. Il se rend au temple pour parler à tous les gens qui étaient réunis de beaucoup d'endroits dans le royaume. Même des gens étaient venus de l'extérieur de l'Israël, de d'autres provinces de l'Empire romain, pour venir fêter la Pâque annuelle. Donc, Jésus arrive juste au bon moment pour parler à tous ces gens assemblés. Donc, tournez avec moi dans Luc, chapitre 19, Évangile selon Luc, chapitre 19, nous sommes rendus au verset 45. « Il entra dans le temple et se mit à chasser les marchands, en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Et au chapitre 20, il dit, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent, « Dis-nous par quelle autorité tu fais cela. » Qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Alors ils firent en eux-mêmes cette réflexion, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, mais tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où venait ce baptême. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Amen. On va lire le reste un peu plus tard. Donc, il semble la première action de Jésus en arrivant à Jérusalem, c'est qu'il se rend au temple pour y faire le ménage. C'est dans l'Évangile de Luc, c'est la seule fois que Jésus revient au temple. On sait qu'il est probablement retourné plusieurs fois. Et on apprend dans l'Évangile de Jean, d'ailleurs, que dès le début de son ministère, il s'est rendu au temple. Mais dans Luc, il n'y a pas fait mention, à moins que je ne me trompe. La dernière fois où il est présenté que Jésus était au temple, c'est à l'âge de 12 ans, alors qu'il était parmi les docteurs de la loi et qu'il s'entretenait avec eux, puis que ses parents retournaient à Jérusalem, à Nazareth, pardon, puis se sont rendus compte qu'il n'était pas avec eux. Ils l'ont cherché pendant 3 jours, il était au temple. Et vous vous souvenez ce qu'il a dit pour expliquer pourquoi il était resté là? Il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père. Déjà à un très jeune âge, il était conscient que sa mission sur terre, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Et quel meilleur endroit pour l'accomplir que dans la maison de Dieu, dans le temple? Mais finalement, ce n'était pas encore le temps du début de son ministère. Il a obéi à ses parents, il retournait avec eux, il était soumis à ses parents. Et maintenant qu'il arrive à la fin de son ministère, il est justement au temple, à la maison de Dieu. Et on peut être sûr que ce qu'il avait à cœur à l'âge de 12 ans, il l'a encore. Il est vraiment convaincu de sa mission sur terre et qu'il doit servir l'intérêt de son père. Donc, on peut comprendre comment il est outré, désolé, mais même en colère de voir qu'est-ce que les Juifs en ont fait. C'est devenu un lieu de foire, de vente, d'échange, un lieu de commerce. Et on peut comprendre que si Jésus est si en colère et qu'il chasse tous les marchands qui sont là, c'est parce que le commerce ne devait pas être très honnête non plus. On peut facilement s'imaginer que le prix des animaux qui étaient vendus était plus élevé que la normale. Pourquoi ils vendaient des animaux? Parce que les gens qui venaient offraient des sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu. Donc, ça faisait partie des rites religieux tels que prescrits dans l'Ancien Testament. Et si un voyageur arrivait qui n'avait pas d'animaux, il pouvait acheter une bête et l'offrir en sacrifice. Donc, c'était un bon commerce pour ceux qui étaient des vendeurs d'animaux. Quelqu'un pouvait apporter lui-même sa brebis, par exemple, ou son oiseau, ou la bête qu'il voulait offrir en sacrifice. Mais dans l'Ancien Testament, il est dit que lorsqu'on offrait une bête, elle devait être sans défaut corporel, donc parfaite. Donc, c'était très facile, par exemple, pour le sacrificateur de dire, « Non, ta bête, elle n'est pas parfaite. Va l'acheter au kiosque au coin, là. » On s'imagine tout le racket qu'il pouvait y avoir, là. Puis c'est évident, d'après les lectures que j'ai faites des commentateurs qui expliquent le contexte de l'époque, que les scribes, les chefs religieux étaient de mèche avec les vendeurs. Finalement, c'était tout un commerce où est-ce qu'ils recevaient une ristourne de cela. Et ça servait à enrichir leurs poches et aussi à enrichir les coffres du souverain sacrificateur. Donc, c'était tout un système qui était bien rodé, un système corrompu. Partout où est l'homme, il y a de l'hommerie. Et même si c'est un système religieux, c'était corrompu. Et on peut s'imaginer à quel point Jésus était offusqué de voir cela. En plus, il est dit que ce marché-là était dans le temple. Mais c'est sûr que ce n'était pas dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. C'était dans le parvis extérieur. Mais c'était justement l'endroit prévu par Dieu où les étrangers, les païens, pouvaient venir se réunir et se recueillir devant Dieu et prier Dieu. Lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, c'était clair que c'était pour Israël, mais c'était aussi pour que les nations puissent venir adorer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'était justement dans ce parvis-là qu'ils pouvaient venir prier. Mais là, ils ne pouvaient plus parce que c'était occupé par des kiosques de vente et d'échange monétaire. Donc, c'était vraiment une honte. Et c'est pour ça que Jésus leur dit que c'est censé être une maison de prière. Et lorsqu'on lit la citation dans l'Ancien Testament, c'est même indiqué une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et si vous en avez fait une caverne de voleurs, c'est une honte et ça ne pouvait pas rester impuni. Même l'expression « caverne de voleurs », ça provient de Jérémie 7, où il y a une situation semblable qui s'était produite. C'est écrit dans Jérémie 7, versets 1 à 11. « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, proclame cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui est entré par ses portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant, « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas les migrants, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas le sang en ce lieu, le sang innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité, Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire de faux serments, offrir de l'encens à Baal et vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Puis vous venez vous placer devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites « Nous sommes délivrés » et c'est afin de commettre toutes ces erreurs que vous êtes délivrés. Est-elle à vos yeux une caverne de brigands? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Donc, pourquoi l'Éternel réprimandait sévèrement son peuple? Parce qu'ils agissaient de manière hypocrite. Ils pensaient que, tout simplement de se présenter à la maison de l'Éternel, qu'ils allaient être bénis et protégés par l'Éternel, alors qu'ils vivaient une vie contre sa volonté, dans l'hypocrisie, dans le crime. Et c'est là que Dieu leur dit, « Vous avez fait de ma maison une maison de voleurs, une caverne de voleurs. » C'est les mêmes paroles que Jésus prononce. Et quelle était la conséquence à l'époque de Jérémie? Mais Dieu dit, finalement, vous ne pourrez plus rester en ce lieu. Et c'est arrivé, finalement, le temple a été détruit. Le peuple a été déporté à Babylone. Plusieurs sont morts. Dieu, dans sa grâce, plus tard, a permis que le peuple revienne et reconstruise le temple. Mais ici, lorsque Jésus fait ce grand ménage dans le temple et qu'il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs, c'est un rappel à cette menace-là passée. Vous ne pourrez plus demeurer en ce lieu-là si vous rejetez l'Éternel que vous supposément adorez dans cette maison. Et c'est ce qui va arriver finalement. Le temple sera détruit. Ils ne pourront plus rester dans ce lieu. Et la présence de Dieu dans un lieu fixe, dans ce pays, va prendre fin. Donc Jésus les chasse. Il ne peut pas tolérer cet outrage, cet honneur à son Père, ce déshonneur à son Père et à la sainteté de ce lieu-là. Donc ne pensons pas que c'est moins scandaleux pour nous d'agir dans l'hypocrisie, maintenant qu'il n'y a plus de temple, de lieu saint physique. Le Nouveau Testament nous dit que l'Église est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et vivre dans l'hypocrisie, étant dans la maison de Dieu, c'est autant outrageant, choquant. Et c'est le point que Dieu voulait montrer très clairement dans Acte 5, au début de l'Église, lorsque Ananias et Saphira, encore justement, dans le thème de l'argent, ont voulu se glorifier en montrant qu'ils avaient vendu leur champ et donné tout le montant à l'Église. Donc, il paraissait bien. Ça paraissait être un service noble pour Dieu. Ce qu'ils n'avaient pas dit, c'est qu'ils avaient caché, gardé la moitié de la valeur du champ. Donc, ils avaient menti à l'Église, menti au Saint-Esprit, déshonoré Dieu par ce commerce honteux, injuste. Et ils ont été sévèrement punis. Ils sont morts sur le champ. Donc, Dieu voulait montrer que ce n'est pas parce qu'ils n'habitent plus en un lieu fixe, dans un temple, que sa sainteté est moins importante. Elle est maintenant dans l'Église. Heureusement, Dieu ne punit pas de mort instantanément tous ceux qui mentent à l'Église. Il n'y aurait pas beaucoup de vivants. Mais c'était une leçon quand même qu'il fallait retenir. La gravité est la même. Les chefs religieux, c'est sûr qu'en voyant Jésus faire le ménage, ils n'apprécient pas cela. Ils sont frustrés. On peut comprendre des... C'est leur poche qui vont en souffrir. Mais c'est aussi un affront là, devant tout le peuple. Parce que Dieu, en accusant que ce commerce est injuste, voleur, finalement, il accuse, il attaque leur intégrité à eux, leur réputation. C'est dur sur l'orgueil et ça met en danger leur autorité. Parce que leur autorité est principalement basée sur l'aspect qu'ils avaient d'être parfaits, d'être justes. Ils disaient « Suivez notre exemple, vous avez besoin de nous ». Et là, s'ils sont déclarés injustes, leur autorité est mise en jeu. Donc, c'est sûr qu'ils n'aiment pas ce que Jésus fait, mais Jésus était parfaitement en droit de le faire. Non seulement parce qu'il était un prophète envoyé par Dieu, mais parce qu'il est le Fils de Dieu, l'héritier de la maison de Dieu. C'était chez lui, finalement. Donc, il avait toute l'autorité pour le faire. Et d'ailleurs, après avoir fait le ménage, Jésus reste là. Et pendant les jours qui suivent, il enseigne au peuple à cet endroit. Ça aussi, c'est un affront aux chefs religieux. Parce que le temple représentait la plus haute instance dans leur organisation, dans leur autorité. Et Jésus allait enseigner directement là. C'est comme si un chrétien allait prêcher la bonne nouvelle au Vatican. Ça serait un affront pour l'Église catholique. Donc, leur réaction, ça dévoile leur cœur. Ils ne cherchent même pas à savoir si ce que Jésus dit est vrai ou non. Ils ne cherchent même pas à savoir si Jésus est vraiment envoyé de Dieu. Ils sont fâchés et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Le tuer. C'est vraiment lâche de leur part. C'est vraiment lâche de vouloir tuer quelqu'un. Et ce qui montre encore plus leur lâcheté, c'est qu'ils ne le font pas, parce qu'ils ont peur du peuple. C'est comme le comble de la lâcheté. Et ils craignent le peuple. Mais un peu plus tard, ils trouvent un moyen de le piéger. Donc, je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain. Ils reviennent à lui. Ils se sont consultés. Et ce qu'ils veulent, finalement, c'est tenter de démontrer que Jésus a outrepassé ses droits, qu'il a été rebelle à l'autorité en place, qu'il n'a pas l'autorité de faire ce qu'il a fait. Et finalement, qu'il devrait être puni. S'ils arrivent à démontrer cela, même, ils espèrent peut-être pouvoir encourager le peuple à ce qu'il soit puni de mort. Donc, ils viennent le sommer de répondre avec leur autorité. « Dis-nous par quelle autorité tu fais cela. Par quelle autorité tu as chassé les marchands. Par quelle autorité tu oses enseigner dans cet endroit, alors que nous sommes officiellement en position pour enseigner le peuple. » Alors, je suppose qu'ils pensent que si Jésus ne sait pas quoi répondre, il va avouer indirectement qu'il n'a pas l'autorité de le faire. Et s'il répond, peu importe sa réponse, ils vont démontrer que son autorité n'est pas reconnue, n'est pas officielle. S'il vient au nom de la synagogue de Nazareth, ils vont dire qu'eux, ils ont autorité sur la synagogue de Nazareth. S'il vient au nom de sa famille, ils vont dire que ça ne vaut rien. S'il vient en son propre nom, ça vaut encore moins rien, lui qui n'a même pas fait d'études en théologie avec nous. Mais Jésus est plus intelligent qu'eux, il est plus sage. Il ne se laisse pas prendre et il leur répond de manière honnête et juste, mais en commençant par leur poser une question à son tour. Donc, il n'évite pas le sujet, mais il commence par leur poser une question. Et ça aide à clarifier qu'est-ce qu'ils entendent par là, l'autorité. Donc, il leur demande le baptême de Jean-Baptiste. Il venait de qui? Il venait d'où? Est-ce qu'il venait du ciel ou il venait des hommes? Donc, en d'autres mots, est-ce que le baptême que Jean offrait à la population, est-ce que c'est Dieu qui l'avait ordonné, cette institution-là? C'est Dieu qui a envoyé Jean pour baptiser et demander aux gens de se repentir? Ou c'est lui-même qui l'a inventé, ça? Là, ils sont pris. Parce qu'on se souvient, c'est relaté au début de l'Évangile de Luc, que toute la population venait se faire baptiser, sauf les pharisiens, les scribes, les chefs religieux. À part peut-être quelques exceptions, mais de manière générale, les chefs religieux ne se sont pas fait baptiser par Jean, ne se sont pas repentis. Ils n'avaient pas besoin de se repentir, ils étaient déjà justes. Mais pourtant, Jean-Baptiste leur pointait vraiment leur péché. Donc, ils n'ont pas cru à Jean-Baptiste. Là, ils sont pris. S'ils disent que son baptême venait de Dieu, bien, ils vont dévoiler qu'ils ont été rebelles à Dieu. S'ils disent que son baptême venait des hommes, ils vont s'opposer à toute la population qui a cru en Jean-Baptiste. Donc, finalement, ils disent « Nous ne savons pas ». Encore une fois, leur cœur mauvais est dévoilé, parce qu'ils ne prennent même pas la peine de juger si le baptême de Jean-Baptiste était véritablement de Dieu ou pas. Pour eux, c'est secondaire. Tout ce qui les importe, c'est qu'est-ce qui va leur arriver à leur personne. Ils ne se soucient pas de la vérité. Et lorsqu'ils répondent « Nous ne savons pas », ils le démontrent ouvertement qu'ils ne se soucient pas de ce qui est vrai. Ils pensent seulement à leur propre intérêt. Donc, même s'ils ne veulent pas dire qu'ils ne croient pas en Jean, finalement, c'est ce qu'ils avouent. Ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste, parce que sinon, ils auraient su qu'il venait de Dieu. Et c'est avec cette même attitude-là qu'ils rejettent Jésus. Donc, finalement, Jésus répond par cette question-là. Si vous rejetez le baptême de Jean-Baptiste, si vous rejetez son enseignement, c'est par cette même attitude que vous me rejetez. Donc, qui doit juger si j'ai autorité ou non? D'ailleurs, l'enseignement de Jean et l'enseignement de Jésus concordent. Il n'y a pas de contradiction. Les deux ont affirmé être venus de Dieu, envoyés de Dieu. Et Jean a affirmé qu'il était le prédécesseur de celui qui allait venir, qui était plus grand que lui. Et il a clairement dit que celui qui allait venir, Jésus, est le Messie, le Christ, l'agneau de Dieu venu pour enlever, ôter les péchés du monde. Il l'a clairement déclaré. Donc, si Jean-Baptiste était vraiment le prophète de Dieu qui l'a déclaré l'identité de Jésus, bien, Jésus est évidemment prophète de Dieu, envoyé de Dieu. Mais le péché d'incrédulité de ces chefs religieux-là n'est pas nouveau. Ça s'était répété et ça a été commis très souvent dans le passé. À chaque fois que Dieu envoyait un prophète, oui, il y avait peut-être une partie de la population qui se repentait, parfois non, on dirait. Mais c'est surtout ceux qui étaient en place pour diriger le peuple qui rejetaient ces prophètes-là. Plusieurs sont morts même. En fait, c'est le même vieux mensonge de Satan depuis l'origine des temps, qui consiste à mettre en doute l'autorité de Dieu et l'autorité de sa parole. Et là, c'est la parole faite chair qui est sur terre, là, et Satan, c'est sûr que c'est à cela qu'il veut s'attaquer. Est-ce que vraiment cet homme a l'autorité pour parler. Et il sème le doute. Mais si c'est le même truc de Satan, et Satan n'est pas très original, c'est le même mensonge, on peut s'attendre qu'aujourd'hui, on va retrouver ce même mensonge-là dans l'Église. On peut s'attendre que l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus, de la parole de Jésus, de sa parole, va être mise en doute. On va se demander si c'est vraiment un guide à suivre ou non. Est-ce que c'est seulement un écrit de sagesse comme plein d'autres, ou est-ce que c'est Dieu, le Créateur, qui nous parle? Et l'attaque va venir de l'extérieur, l'attaque peut venir de l'intérieur, peut survenir même dans notre propre tête. Et c'est lorsqu'on est en conflit à savoir si on va obéir ou non à Dieu que Satan sème le doute. C'est le même mensonge qui s'y trouve. Si Jésus a toute autorité sur son Église, encore aujourd'hui, nous allons obéir à sa volonté. Nous allons suivre ses commandements dans tous les domaines. S'il ne l'a pas, mais si supposément Dieu a donné cette autorité-là aux hommes, bien là, on va faire ce que bon nous semble. Et on va démarrer toutes sortes de sectes. Et finalement, la parole de Dieu va être mise de côté. C'est pour ça que nous maintenons la vérité fondamentale que c'est Christ qui dirige son Église et pas les hommes. Donc, c'est sa parole qui fait autorité en toutes circonstances. Mais c'est vraiment ce qui est au cœur du combat spirituel. Et c'est un combat qui se déroule maintenant. Les démons tentent de tout faire pour convaincre, de maintenir toute la population dans la conviction que Jésus n'a pas d'autorité et, si possible, tenter de convaincre les croyants de rejeter l'autorité de Dieu et l'autorité de Jésus. Mais Jésus, voyant la rébellion, l'incrédulité des chefs religieux, il leur raconte une parabole. Si on lit à partir du verset 9, Luc 20, verset 9, c'est le dernier passage que nous lisons. Luc, chapitre 20, verset 9 à 19. « Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole, donc en présence des chefs religieux. Un homme planta une vigne, la loua des vignerons, et quitta le pays pour un temps assez long. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le frappèrent et l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième et ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « C'est lui l'héritier. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « Qu'il n'en soit pas ainsi! » Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui, à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Mais ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. C'est assez évident que c'était pour eux. Le sens de cette parabole est assez simple aussi. C'est une allégorie et Jésus l'enseignait pour qu'elle soit très bien comprise. Elle représente finalement la relation entre Dieu, son peuple et ceux qui sont en charge de prendre soin de son peuple. Et l'image d'une vigne, ça a été très souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour montrer, pour représenter le peuple de Dieu. Donc, on comprend que le propriétaire de cette vigne, c'est Dieu. Il demeure le propriétaire du peuple, qui est son peuple. Les vignerons, qui sont chargés de prendre soin de la vigne, bien, sont finalement les sacrificateurs, les scribes, les anciens, qui sont chargés de prendre soin du peuple de Dieu, qui ont accès à la parole de Dieu, aux Écritures, qui peuvent conduire le peuple, qui sont censés garder le peuple dans la sainteté, dans la fidélité à Dieu. Et les serviteurs, dans la parabole, les serviteurs que le propriétaire envoie pour aller chercher comme les fruits de cette récolte-là, sont maltraités, sont rejetés, sont blessés, sont chassés. Et on comprend qu'il s'agit de tous les prophètes que Dieu a envoyés dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes envoyés pour récolter les fruits d'un peuple saint, qui se dévoue à Dieu, mais systématiquement, les prophètes ont été rejetés. On lit dans Hébreux 11, 36 à 38, « Ils éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. » Ça ne fait pas du bien, ça. « Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux, pourtant, dont le monde n'était pas digne, des serviteurs de Dieu, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. » Donc, ce n'est pas nouveau, la réaction, finalement, de rejeter ceux que le propriétaire envoie. Et cette méchanceté-là des vignerons qui prennent soin de la vigne, là, qui blessent, qui rejettent le serviteur, elle semble presque exagérée. Mais ça se peut pas, c'est fou d'agir comme ça. Mais ça contraste vraiment avec la patience du propriétaire. Vous ne trouvez pas? Il apprend que son serviteur a été battu. Il me semble humainement, là, en tant que propriétaire, à la première infraction, je serais débarqué là, avec les autorités, avec la force, là. Mais il patiente le propriétaire, il envoie un autre serviteur. Encore un autre. Et on dirait même que la réaction du peuple est encore pire. Bien, du peuple, je veux dire, des vignerons, est de pire en pire. Jusqu'à ce que finalement, il dit, je vais leur envoyer, comme si moi-même j'allais vers eux, je leur envoie mon fils bien-aimé. C'est sûr que eux, celui-là, au moins, ils vont le respecter. Ils vont l'écouter. Mais ils lui font encore pire que ce qu'ils ont fait au serviteur qui l'a envoyé. Il le traîne hors de la vigne et le tue. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé prophète après prophète pour avertir, inviter à la repentance, jusqu'à finalement envoyer son Fils bien-aimé, Jésus. Et c'est la même expression qui est utilisée. Quand Dieu parle de son Fils, il l'appelle mon Fils bien-aimé, celui que j'aime. C'est comme ça qu'il l'a présenté lorsque Jésus s'est fait baptiser dans Luc 3. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Et encore une fois, lorsque Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques, qu'il a eu une transfiguration, qu'il a brillé, que la nuée divine est apparue, il y a une voix qui est sortie qui a dit « Celui-ci est mon Fils élu, mon Fils choisi. Écoutez-le. » Et clairement, ce Fils-là, dans la parabole, Jésus ne se le cache pas, ça représente lui. C'est lui, finalement, que Dieu a envoyé. Après avoir envoyé une succession de prophètes, il envoie son Fils lui-même, Dieu venant sur terre parmi son peuple. Encore une fois, pour tenter de recueillir des fruits spirituels. Et il est rejeté. Et peu de temps après, donc quelques jours après, ce sera finalement le jour où Jésus sera sorti hors du milieu du peuple, comme hors de la vigne, pour être mis à mort, livré aux païens et crucifié comme un vulgaire criminel, comme quelqu'un qui n'est même pas du peuple de Dieu. Et ce grand crime ne pourra pas rester impuni. La parabole dit que le propriétaire va venir et va faire périr les vignerons, ceux qui avaient en charge de prendre soin de la vigne, et qui va donner la vigne à d'autres. Et on sait que Dieu fera périr les chefs religieux juifs et va confier finalement son peuple à d'autres. Aux apôtres, premièrement, les apôtres qui n'étaient pas vus comme des dirigeants spirituels, des gens de peu d'éducation, ils deviennent finalement les 12 chefs, ceux qui représentent l'autorité de Jésus. Et par la suite, la tâche de prendre soin du peuple est confiée aux pasteurs des églises, autant juifs que païens, donc le nouveau peuple de Dieu qui incorpore tous les croyants du monde. Mais vraiment, l'autorité du Sanhédrin est tassée, c'est fini. En entendant cela, en entendant la parabole de Jésus, ils s'écrient « Non, qu'il n'en soit pas ainsi! » C'est comme s'ils sont vraiment embarqués dans l'histoire que Jésus raconte, là, puis ils ne veulent pas que ça arrive. Si c'est les chefs religieux qui s'exclament en disant cela, j'ai l'impression que c'est eux, bien on sait qu'ils avaient très bien compris que ça s'adressait à eux. Et même s'ils étaient incrédules, ils ne croyaient pas à Jésus, ils ne voulaient pas entendre de mauvaises nouvelles, ils ne voulaient pas entendre une malédiction à leur sujet. On voit ça dans l'Ancien Testament, même des gens incrédules ne veulent pas qu'un prophète prophétise en mal contre eux. Pourtant, ils disent ne pas y croire, mais ça reste quelque chose de choquant et on ne veut pas cela. Et là, leur haine contre Jésus s'amplifie et ils voulaient sauter dessus tout de suite pour le mettre à mort. Mais malheureusement, la foule était là et la foule était suspendue aux lèvres de Jésus. Donc, ils ne pouvaient pas y arriver. Et Jésus leur dit, « OK, vous ne voulez pas que ça arrive, mais ça doit arriver. Pourquoi ça n'arriverait pas si ça a déjà été prophétisé? Non seulement maintenant je le prophétise, mais ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. » Et c'est pour cela qu'il parle de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. C'est dans le psaume 118 qu'on trouve cette phrase-là. C'est le même psaume que la foule a cité lorsque Jésus est entré à Jérusalem, où il chantait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans ce même psaume-là, il est raconté qu'est-ce que la venue du Seigneur qui arrive là, apporte. Pour les uns, c'est un sujet de réjouissance, mais pour d'autres, il dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient », ici, ce n'est pas l'image d'une vigne qui est utilisée, c'est l'image d'une bâtisse qui est en train d'être construite. Et les bâtisseurs se font donner la pierre, là, et ils la rejettent. Mais cette pierre-là est devenue la principale de l'angle, celle qui est au coin de la bâtisse et qui fait en sorte que la bâtisse peut être construite en bon ordre et qu'elle ne va pas s'écrouler, finalement. Ça devient la pierre la plus importante. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Éternel accorde le salut. Éternel donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc vraiment, celui qui vient au nom de l'Éternel, c'est la pierre que les bâtisseurs rejettent. Donc, c'était déjà prophétisé que cette pierre-là envoyée de l'Éternel ne serait pas bien reçue par ceux qui avaient la tâche de bâtir. C'est pour ça que Jésus leur dit que vous ne vouliez pas que ça arrive, là, peut-être, là, mais ça va arriver. Ça a été prophétisé. Et Ésaïe a repris cette même image-là d'une pierre pour parler du Messie, mais ici comme une pierre vraiment de malheur. Pas seulement une pierre qui est rejetée, mais une pierre qui cause le malheur, qui provoque le jugement pour les ennemis de Dieu. Dans Ésaïe 8, il sera un sanctuaire, donc un endroit pour se recueillir, pour pouvoir accéder à la sainteté de Dieu, mais aussi une pierre de malheur. Un rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'hommes y trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Finalement, les Israélites sont premièrement punis parce qu'ils rejettent cette pierre-là et cette pierre, Jésus, devient finalement la cause de leur jugement. Et c'est ce qui les fait tomber. Même Jésus ajoute qu'elle va écraser celui sur qui elle tombe. Là, c'est sûr qu'ils veulent tuer Jésus. Mais ça va prendre encore quelques jours avant qu'ils puissent parvenir à leur fin. Et pendant ce temps-là, Jésus continue d'enseigner, même si son autorité est constamment contestée. Et on va voir dans les prochaines paroles de Jésus, que son autorité va être encore une fois contestée, ou sa sainteté, sa sagesse. Mais ici, clairement, dans ces passages, c'est son autorité qui est contestée. Est-ce qu'il est vraiment un envoyé de Dieu? Est-ce qu'on doit vraiment se repentir et se tourner vers lui et le suivre? Bien, en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous, individuellement, c'est aussi cela qui est remis en question. C'est là le nerf de la guerre. Quand on dit qu'on est dans un combat spirituel, c'est ça l'enjeu. C'est est-ce qu'on va finalement continuer à reconnaître que Christ a autorité dans nos vies? Ou non, ou on va le tasser. Quand on commence à dévier et s'engager dans une mauvaise voie, qu'on prend l'habitude, on tolère le péché dans notre vie, finalement, c'est qu'on met l'autorité de Jésus de côté. C'est à chaque fois, c'est ça, là, qu'on le fasse inconsciemment ou non. Chacun de nous est une maison pour Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus, qui sont sauvés, bien, Dieu dit qu'il est domicile dans la maison, dans le corps de chaque croyant. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Et Jésus y fait le ménage. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont déshonorer son Père, et Jésus est empreint du même zèle pour faire le ménage. C'est sûr que c'est un zèle plein d'amour pour nous, mais il fait le ménage. Est-ce qu'on va se soumettre à son ménage ou non? Ou on va résister? Est-ce qu'il va devoir le faire de force? Dans Éphésiens 5, on lit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc, il veut une église, finalement, qui va être une maison de Dieu sainte, une maison de prière et non une caverne de voleurs. Mais soyons sûrs que la grâce de Jésus est toujours disponible. Il ne sort pas le fouet contre nous, heureusement. Et c'est toujours possible de retourner à lui, de se repentir et de trouver le pardon et la guérison. Amen.